Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
C'est parti!
Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Plein de Sens.
Je suis Anne-Sophie Supiot.
Je m'appelle Grégory Vacher.
Vous êtes en quête de sens? Et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi.
Comment tu sais tout ça toi?
Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous.
Quelle bonne idée.
Oui.
Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui?
Le vin responsable avec Aurélien.
Merci Francine.
Alors, on y va.
Aujourd'hui, on vous emmène avec nous. Nous sommes allés voir notre invité qui s'appelle Aurélien. Aurélien, il est maître de chais, c'est ça qu'on dit?
C'est exactement ça, oui, bonjour.
Au Château Labrie. Et ouais. donc, on vous prévient juste, c'est vrai qu'on a fait une petite dégustation avant l'enregistrement. C'est vrai qu'on a fait les choses peut-être un petit peu à l'envers. Mais je peux vous dire que son vin, Aurélien, il a du retour, il est bon. Hein.
C'est vrai que là, ça se sent dans ta voix. Que
c'est vrai.
T'as une espèce de sourire de... Bon, on a dégusté du vin,
on
c'est
a
ça,
dégusté
Aurélien.
Du
donc,
vin.
On a fait ça bien.
Dégusté sagement, effectivement.
C'est-à-dire qu'on l'a mis dans la bouche. Et puis après, Aurélien, toi, tu recrachais dans un crachoir. Et ça permet, comme ça, d'avoir les goûts du vin sans forcément le boire.
Bah, sans forcément avaler et être malade derrière, bien entendu.
Oui, alors qu'Anso, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup craché.
J'ai fini tous les verres.
Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu te voir, Aurélien? Parce que bah, c'est Anso qui t'a découvert. Comment d'ailleurs, Anso?
Eh bien, en fait, je suis allée... J'ai le droit de dire les autres noms de châteaux, évidemment.
On peut, ouais.
Je suis allée visiter Château Côte-Pavie.
J'étais accueillie...
Saint-Georges-Côte-Pavie. J'étais accueillie par Mathieu, qui était trop sympa, qui nous a... fait visiter son château et comment il produisait son vin.
Donc ça, c'était dans ta vie perso?
C'était dans ma vie personnelle, aux alentours du mois d'août.
Voilà, donc t'es vers Saint-Émilion, tu te dis je vais visiter un château, tu te retrouves là-bas. Quand tout à coup,
je dis à Mathieu, mais moi, tu sais que je fais des podcasts et j'adorerais pouvoir avoir quelqu'un qui produit son vin, mais de manière responsable, qui fait attention au sol, à la planète, etc. Et donc il me dit, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? J'ai ça sous la botte.
Ouais.
Et il m'a donné le numéro d'Aurélien.
Et donc là, on s'est retrouvé chez Aurélien,
voilà.
Dans ton château, Aurélien, qui s'appelle le château
Château Labrie.
Château Labrie. Et alors, ça veut dire, si tu utilises des techniques plus respectueuses du sol, c'est-à-dire que tu es en bio?
Alors, je suis en bio, en reconversion bio depuis 2023, mais j'utilise des produits bio depuis maintenant quelques années.
Donc, c'est quoi le point de départ pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais ton vin? Est-ce que tu es propriétaire de ce château? Est-ce que tu l'as depuis toujours? Est-ce que c'est un truc familial? Est-ce que tu l'as acheté il y a un an avec tes économies?
Alors, du tout,
avec ta petite souris, on veut tout savoir.
c'est une propriété qui est dans la famille depuis bien longtemps. Ma maman a fait des recherches et a trouvé des choses parlant de Labrie en fin du 19e siècle sous le nom de Clos Labrie. Donc oui, ça remonte un petit peu maintenant.
Donc c'est familial et vous aviez combien à la base?
Alors à la base, il y avait 10 hectares qui étaient travaillés par deux familles. Ma tante et mon oncle, et ma mère qui avait sa partie. En 2006, ma tante et mon oncle ont décidé de vendre leur partie de vignoble.
D'accord.
Et ma mère a récupéré 5 hectares.
Donc là, vous n'avez plus que 5
Alors,
hectares
Non, maintenant nous sommes à 1 hectare 6. En 2019, nous avons été obligés de nous séparer de 3 hectares et demi. Et c'est là où je me suis lancé, en fait, le challenge de vinifier à la maison.
Et du coup, est-ce que par comparaison sur les autres châteaux, par exemple, de la région, on est dans le Saint-Émilionnais, c'est comme ça qu'on dit ?
Exactement.
Est-ce que sur les exploitations classiques, combien il y a d'hectares, par exemple ?
On doit être sur une moyenne de 5 hectares sur Saint-Émilion. Donc, à l'abri, on est sur une toute petite propriété. On peut appeler ça même D'accord. une micro-propriété.
Et est-ce que le fait de faire du vin bio, c'est plus simple d'avoir pas beaucoup d'hectares ? Si par exemple tu avais 10 hectares à faire en bio, est-ce que ce serait plus compliqué ?
C'est complètement plus facile à gérer. Ouais. Plus facile à gérer parce qu'on est beaucoup plus réactif. Traiter un hectare 6 quand il y a une grosse pression, ça se fait en 2 heures.
Ouais.
Sur une propriété beaucoup plus grosse, ça prendrait beaucoup plus de temps, une journée.
Ouais. Mm-hmm. Alors, ce qui était intéressant aussi pour nous en venant te voir et en parlant de vin, c'est que je pense que tu es dans une démarche qui nous parle, dans le sens où, pour moi qui ai grandi dans la région, j'ai toujours vu le vin comme un milieu un peu élitiste. Il y a des gens à chaque fois qui dégustent du vin, qui vont te sortir des grandes phrases pour te dire, plutôt que de dire ce vin il est bon, ils vont te dire je ressens le tannin de je sais pas quoi. Bon bref, ce que je dis en plus c'est tout simple, mais en tout cas pour une personne qui n'a pas ce vocabulaire là, on comprend pas ce qui se passe. Et donc des fois, tu n'oses pas trop dire que tu aimes un vin ou pas, parce que limite, même si tu aimes un vin, on va dire mais il est nul, tu ne connais rien.
Ouais.
Tu te dis ok, autant pour moi, je ne l'aime pas.
Alors que tu as le droit de ne pas l'aimer. Hein.
Ouais, tu as le droit d'aimer, de ne pas aimer. Et je crois que toi, dans la démarche que tu as aujourd'hui en lançant ton propre vin, puisque tu travailles sur plusieurs chais, donc ton propre vin, c'est là, c'est nouveau. Quoi. Ça date de quoi ? C'est 2020 ?
C'est 2020. Mon premier millésime, c'est 2020, donc c'est tout récent. Oui.
Et ta volonté, c'est de faire quelque chose d'un peu plus
accessible ? Oui, complètement. Mon souhait était de faire un vin accessible, facile à boire, sans forcément aller se prendre la tête, aller chercher des noms, des arômes. C'est, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà.
D'accord.
Non, moi, ça me plaît. Hein.
C'est gentil, merci.
Ça me plaît, oui.
On a vu, on a pu voir. Ouais. Et comment c'est accueilli quand on lance son vin aujourd'hui dans une région comme Saint-Émilion, est-ce que tu sens que tout le monde a sa chance ? Est-ce qu'on se fait facilement un réseau ? Est-ce que c'est plutôt difficile et on sent que pour faire parler de soi, ça va demander des longs efforts pendant très longtemps ?
C'est pas forcément facile parce que d'une part, on est situé en dehors du village de Saint-Émilion où on peut trouver tous les grands châteaux. Donc c'est difficile de faire venir du monde sur la propriété. Et j'avais à cœur de faire un vin un peu différent. Donc du coup, on sort un petit peu des codes, on n'est pas sur le classicisme saint-émilionnais. Donc les gens, j'ai l'impression que parfois, quand ils goûtent, ils perdent un peu leur repère et ne savent pas trop quoi en penser. Donc non, c'est pas ce qu'il y a de plus évident aujourd'hui.
Et par rapport à tes concurrents, entre guillemets, enfin je veux dire aux autres vignerons, est-ce que par exemple, l'arrivée de... Comme t'es tout neuf, même si bon, t'es déjà connu dans le milieu puisque tu t'occupes d'autres chais, est-ce que tu as été bien accueilli ou est-ce qu'ils se sont dit l'autre il arrive, il fait son vin bio ?
Non, j'étais plutôt bien accueilli déjà par des gens avec qui je travaille qui ont été de bons conseils pour moi. Quelques voisins, notamment un qui me suit et qui m'aide beaucoup. Globalement, ça s'est bien passé.
Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pour des gens comme nous qui ne connaissons pas grand-chose au vin, on le boit mais on ne sait pas trop comment il arrive dans notre verre en gros ? On sent qu'à un moment, on a fait « Hey Michel, tu m'en resserres une !» et puis c'était là. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple, si c'est possible, quelles sont les étapes avant que justement, jusqu'à ce que le vin arrive dans notre verre.
Ouais, vulgarise à mort.
Parce qu'on a vu tout à l'heure dans ton chai des cuves, enfin moi j'appelle ça des cuves, mais ça ne s'appelle pas forcément des cuves. Pourquoi est-ce que des fois c'est gardé dans des tonneaux ? Pourquoi est-ce que des fois c'est dans des trucs en pas tonneaux ?
Donc on part vraiment de la base. Tu nous parles comme si on avait 6 ans.
D'accord. Voilà, parce que comme tu peux le voir, on a le même vocabulaire qu'un enfant de 6 ans.
On va passer un peu le process de vinification qui est globalement à peu près identique. À quelque chose près sur toutes les propriétés. La particularité de l'abri, c'est qu'au niveau de l'élevage, je m'interdis rien, j'essaye pas mal de choses. Donc, sur un chai classique Saint-Émilionnais, on va retrouver des barriques de 225 litres. Ça, c'est la barrique classique avec l'élevage classique. Sur l'abri, on va retrouver des barriques de 400 litres, 500 litres et pas forcément neuves pour apporter beaucoup moins de tanins. On peut retrouver aussi une amphore.
Ouais.
Donc l'amphore par rapport à la barrique, ça va être grosso modo la même chose. Il va y avoir un apport d'oxygène pour patiner les tanins, mais sans apport de bois.
Okay.
Je fais aussi un essai dans des damjans sous verre pour essayer de conserver un maximum de fruits. Idem pour des cuves béton.
Fait de garder le vin soit dans du bois, soit dans du béton, soit dans un gros récipient, ce qui ressemble à la grosse jarre en verre là, dont oui. tu parlais, ou ce qui ressemblait à une grosse poterie, là, c'était quoi?
C'est ce l'amphore.
C'est l'amphore,
justement, dont tu parlais. Ça va changer vraiment le goût du vin, même si c'est la même cuvée.
Oui, ça va le changer. Ça va le changer parce qu'on va rester sur le fruit. Le bois, lui, apporte forcément du bois. Donc, on va avoir des arômes complètement différents sur une amphore ou sur des damjans ou sur une cuve béton. On reste complètement sur le fruit. Et je trouve que quand on assemble tous ces différents contenants, on va arriver sur un vin avec des arômes assez frais. Enfin, en tout cas, un vin qui me plaît. Quoi.
Ah, parce que tu peux mélanger après les...
Après, tout est assemblé.
Ah, d'accord.
Tout est assemblé.
C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Donc, tu peux prendre une partie qui était en fût de chêne avec une partie qui était...
Tout à fait. Donc, juste avant la mise en bouteille, on va goûter en échantillon tous les contenants. On va les goûter et on va l'assembler en éprouvette pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on fait l'assemblage. Donc, on prend tous ces contenants, on va assembler dans une cuve.
Et pourquoi on ne fait pas du vin tout... Enfin, tu vois, par exemple... Un vin qui a été élevé en fût de chêne, par exemple, pourquoi on ne le met pas directement en bouteille? Pourquoi on est obligé de l'assembler?
Ça existe aussi, non?
Ça existe, oui. Mais il y a certaines régions, certaines propriétés qui mettent directement, qui vont faire le collage et qui vont directement mettre le vin en bouteille à partir de la barrique. C'est plus homogène de mettre le vin en cuve d'abord pour l'assembler et une fois le mettre en bouteille. D'une barrique à une autre, on n'a pas forcément la même chose. Ça peut être la même marque, le même type de bois. Ça ne fera pas forcément le même tonnelier qui va fabriquer la barrique.
Ah oui, d'accord.
Donc, pas forcément la même chauffe. Donc du coup, on peut avoir des choses sensiblement différentes.
Okay. Mais en fait, c'est un vrai job de chimiste, quoi. Enfin, c'est un taf monstrueux, quoi, d'être vigneron.
Ouais, moi, je pensais que tu appuyais sur un raisin dans une bouteille et puis après, tu buvais.
Non,
ouais,
pas
alors
du tout,
c'était
ouais.
un peu non. léger. Ouais.
T'écrasais une grappe avec tes pieds.
Ouais.
Fallait les laver avant. Ouais. Voilà. Non, mais justement, ça. Alors, quand on voit. Donc, c'est l'élevage, ça. Ça s'appelle l'élevage. Quand
ouais,
tu laisses le vin comme
dans
ça.
Ces contenants-là.
Dans ces contenants. Ouais, ouais. Quand est-ce que tu sais quand il est prêt pour justement le passer directement en bouteille? Est-ce que tu dois le goûter
Ça, on va le goûter régulièrement pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, à un moment, on va trouver que. C'est une question de feeling. Hein. Ouais. On va trouver que le vin nous plaît comme ça et c'est le moment de sortir et de le remonter en cuve et de l'assembler.
Ok. Voilà.
C'est une pression énorme ça aussi parce que du coup c'est ta responsabilité. Enfin, je veux dire.
C'est ce que j'allais
te
demander.
C'est vraiment que ton goût à toi quoi.
Si est-ce que ça a dû t'arriver vu que ça fait plus de 20 ans que tu bosses dans le vin, mais si t'attends trop, si tu dis ah merde j'ai loupé le coche, il était meilleur.
Ça peut arriver, mais après on arrive toujours à faire des petits ajustements selon les lots.
Tu mets de la grenadine ou.
Ouais. Non, mais après on dépasse rarement le cap. On goûte assez souvent pour voir un petit peu l'état du vin moment-là. Quoi.
Ouais.
Et alors, Aurélien, il y a quand même une particularité, ce que tu nous disais tout à l'heure, juste avant qu'on goûte ton vin, c'est que toi, tu laboures au cheval.
Je laboure au cheval, effectivement, depuis 2019-2020. Alors, tout simplement, il y a deux raisons. La première, j'ai arrêté de désherber en 2015, les vignes, et j'ai essayé tout un tas d'outils pour travailler sous le rang. Le vignoble a été désherbé pendant des années, donc forcément, il a développé un enracinement assez superficiel. Mmh. Et du coup, les outils blessent les pieds ou alors les arrachent.
Okay.
Du coup, il fallait trouver quelque chose d'assez respectueux et d'assez doux pour respecter ces pieds-là. Et donc, on a essayé en 2020 le cheval et pour moi, ça a été un peu la révélation parce que beaucoup moins de blessures, beaucoup moins de casses, beaucoup moins de mortalité. Et après, l'autre raison, c'est moins technique hein, pour le coup, mais... J'ai monté à cheval pendant 30 ans.
Ah.
Et c'est un peu ma grande passion et avoir des chevaux dans les vignes, c'était assez cool.
Okay.
Et puis, pas un bruit. Quoi. Et ça, c'est hyper important, je trouve.
Ouais. Bah, pour les voisins, quand tu habites à côté des vignes, je veux dire.
C'est vrai.
C'est plutôt agréable. Mais justement, le fait de plus vouloir désherber, est-ce que tu sais d'où c'est venu? Est-ce que c'est à force de lire des études sur l'utilisation de produits chimiques? Est-ce que c'est parce que tu connais quelqu'un qui a commencé à faire ça et tu t'es dit je vais faire pareil?
Dans la région, il y a eu un grand tournant à un moment donné où les gens se sont remis un petit peu à travailler les sols. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où à un moment on réfléchit, on se dit bon, faut arrêter de balancer tout et n'importe quoi et de respecter un peu les sols. Et ça a commencé de là, je pense.
Bah, moi, je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi on travaille les sols, justement, pourquoi on les désherbe, où on a besoin d'enlever les mauvaises herbes. Parce que je me dis, un pied de vigne, ça a l'air solide. Je veux dire, même s'il y a de l'herbe autour, ça n'a pas l'air gênant.
Tu vois, là, oui, c'est une bonne question,
Marc.
Une fois
de plus, je me mets dans la tête d'un enfant de 6 ans que je suis. Hein, c'est que je me dis, mais en quoi elle gêne cette herbe? Puisque le rang de vigne est assez haut, il dépasse, et juste, tu passes la tondeuse à la rigueur.
Alors, tout simplement, effectivement, on peut passer la tondeuse au milieu du rang. En l'occurrence, c'est ce que je fais sur l'abri. Mais le dessous rang est travaillé pour la simple et bonne raison. En pleine saison, l'herbe crée un microclimat assez humide au niveau du pied de vigne et de la zone des grappes et du feuillage. Pour le coup, cette humidité, ça peut engendrer des maladies comme le mildiou, comme l'oïdium. Et pour le coup, il est important de pouvoir nettoyer et de garder propre ce dessous de pied. Voilà.
D'accord, c'est pour l'humidité. Alors,
pour l'humidité, ouais.
C'est comme nos pieds à nous. Il faut qu'ils soient bien secs, sinon ils pourrissent.
Enlève tes chaussures.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est beau.
Non, mais...
C'est beau ce que tu utilises comme image. Ouais. C'est vrai
non,
que...
mais en fait, je trouve que c'est une image que tout le monde peut rapprocher à soi-même.
C'est vrai, quand tu as des champignons au niveau des pieds, c'est que tu ne les as pas essayé aérés. Merci beaucoup, Enzo.
Je t'en prie.
D'accord, voilà, tu vois, au moins j'ai appris un truc, je ne savais pas que c'était à cause de ça. Et donc, c'est pour ça, des fois, qu'aussi dans certaines vignes, tu peux voir qu'un rang sur deux, des fois, est désherbé.
Alors, ça, c'est aussi une autre chose, ça peut être au niveau de la concurrence. Certains vignobles sont en herbe. Tous les rangs parce qu'il y a les vignes sont vigoureuses et qu'il faut apporter un petit peu d'herbe pour calmer l'herbe va pomper un petit peu de nourriture à la vigne donc du coup, ça calme un petit peu la vigueur et ça va concentrer un petit peu la vendange donc avoir une vendange un peu plus riche. Parfois on peut travailler un rang sur deux justement pour on va aérer un autre rang et justement se garder un passage pour les traitements avec le tracteur ou pour les travaux mécanisés.
Voilà. Ok. Donc là, quand tu passes avec le cheval, pardon, tu labours, c'est ça? Le cheval traîne quelque chose qui...
Oui, ça traîne une charrue, en fait, ça s'appelle du décavaillonnage. C'est sortir la terre qu'il y a sous le pied. La butte de terre qu'on a formée avant, on la sort avec la charrue. Voilà.
Ok. Oui,
donc on a parlé du labourage au cheval et tu plantes aussi des céréales.
Je plante des céréales depuis 2015, oui, effectivement. Donc ça
dans les vignes.
Dans les vignes, oui.
Au milieu du rang.
Non.
Bah, je sais ce que c'est, je sais qu'il y a aussi les Chocapic.
Mais
je
c'est parce que comme t'as 6 ans.
Je sais qu'il y a les Lucky Charms, voilà, ils sont essentiellement vendus aux États-Unis. Enfin, je connais.
Choco Pops.
Je connais, merci beaucoup. Ouais, donc tu plantes des céréales.
Des céréales, ça peut être tous les ans, ça peut être différents céréales suivant les années. En général, je fais blé, orge, avoine et je mets une légumineuse. Les céréales, en fait, vont décompacter les sols avec leurs racines. Le blé, alors je ne sais plus combien ça pousse par. Mais il a un fort pouvoir décompactant des sols.
D'accord, donc tu le plantes pas pour le cultiver, ce céréale. Enfin,
du tout.
C'est juste pour les vignes.
Il va être tondu, à une certaine période de l'année, il va être tondu. Et j'y associe aussi une légumineuse qui va capter l'azote de l'atmosphère pour la restituer au sol.
Voilà. D'accord.
Et est-ce que tu sais, parce que là, du coup, on a parlé de ces techniques-là, est-ce que tu sais si à l'avenir, il y a d'autres techniques que tu as envie de mettre dans tes vignes qui seraient bonnes pour tes sols, pour les vignes, pour tout ça?
Il y a pas mal de choses que j'aimerais faire.
Ah là, t'as posé la question
piège. Je sens que c'est un sujet tabou.
Non, c'est pas forcément le sujet tabou.
Mais ça l'énerve. Ça se sent, là, un débit qui est rentré.
Je réfléchis parce que j'en ai pas mal à la tête.
Il va t'en coller une.
Non, il y a les tisanes, oui. C'est quelque chose qu'on vend en biodynamique. J'aimerais bien essayer donc les tisanes d'ortie qui peuvent. Après, je suis pas un grand spécialiste et justement, je m'y intéresse un petit peu, mais qui peuvent apporter un peu de vigueur à la vigne. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça de tisanes que j'ai envie d'essayer, oui.
Mais tout ça, est-ce que c'est parce que tu as eu une formation là-dessus ou est-ce que tu te renseignes tout seul?
Non, sur le bio, j'ai aucune formation. J'écoute beaucoup, je lis. Et j'aime bien tester les choses par moi-même et voir un petit peu le fonctionnement, le bon fonctionnement ou pas.
Ouais. Voilà. On est d'accord que là, aujourd'hui, ta vie, c'est ton boulot parce que tu t'occupes de combien de chais déjà à côté en plus de...
Alors, en toute l'année, j'ai 3 chais.
D'accord.
Et pendant les vendanges, j'en ai 2 de plus.
Et donc, t'as pas vraiment de jours de repos?
Après, j'arrive à m'organiser le long de l'année parce que le travail, c'est uniquement le chez que je suis dans chez mes clients.
D'accord.
Tout le long de l'année, on a quand même des dents morts. Hein. Donc, j'ai du temps pour travailler un petit peu dans mes vignes, dans mon chez. Les temps forts dans les chez, c'est vinification, mise en bouteille. Donc, on a quand même un peu de temps libre. Oui.
Ouais, mais c'est quand même super courageux, moi, je trouve, de bosser autant et de se dire, ben, en plus de ça, je vais lancer ma propre production de bouteilles de vin. Enfin,
c'était assez frustrant de voir. Donc, la propriété, avant que je revinifie en 2020 sur la propriété, était vinifiée en cave coopérative. Ouais. C'est hyper frustrant de voir ces raisins partir. On les a travaillés toute l'année et ça part.
Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, genre moi.
Alors, une cave coopérative, c'est très simple. C'est un groupement de viticulteurs qui a créé un chai. La vendange est amenée là-bas et vinifiée par le personnel de cette cave coopérative.
D'accord.
Donc, toi, tu amènes tes vendanges, tes raisins là-bas et puis tu leur...
Ils en font ce qu'ils veulent, quoi.
Bah, ils vinifient et puis ils le mettent en bouteille. C'est comme si c'était ton chai, mais après, tu n'as plus forcément accès. Tu ne peux pas forcément goûter quand tu veux.
Ouais,
tu ne peux pas forcément faire ce que tu veux.
Ouais, c'est un peu comme des agriculteurs qui produisent...
Et qui amènent leurs céréales dans un silo, dans une coopérative.
Justement, ça va devenir des Frostries ou des Lucky Charms, parce que c'est très bon céréale. Tu connais Lucky Charms ou pas? C'était un petit lutin magique.
Oui, mais bien sûr, mais attends, je suis pas complètement demeurée. Hein.
C'était très très sucré. Non, mais je te dis ça parce que je crois que ça n'existe plus en France depuis au moins 20 ans.
Oui, mais tu peux en trouver quand même. Après, je te rappelle que je suis diabétique. Donc,
c'est horrible, ça me tuerait. Mais ça, niveau sucre, mais ça tue n'importe qui. Hein. Bref. Pourquoi on parle de ça? J'en sais rien. et donc, ouais, tu t'es lancé dans ta propre exploitation. Ce que je disais, c'est que ça doit faire quand même énormément de boulot. Est-ce que tu es tout seul à travailler, toi, sur le château Labrie?
Alors, je suis tout seul sur la propriété. Je fais appel à une entreprise quand vraiment il y a un temps fort et assez limité. Mais globalement, ouais, je suis tout seul. Après, j'ai ma mère qui m'aide beaucoup au niveau administratif. Mais globalement, sur la partie technique, ouais, je suis seul.
Et tu arrives à gérer?
Oui. Ouais, ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vis déjà de cette exploitation?
Du tout. Je ne vis pas de la propriété. Je lance tout juste. Donc, la commercialisation date il y a quelques mois. Hein, on a lancé la commercialisation du millésime 2020 en novembre 2022, novembre-décembre 2022.
Ouais.
Donc, c'est tout récent. Non, j'en vis absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai développé une autre petite société à côté pour aller travailler dans d'autres chais sur d'autres propriétés.
Alors, attention, alerte délicieux le millésime 2020. C'est vrai, on l'a goûté. Et je pense que ça ferait des très bonnes idées de cadeaux de Noël.
Oui, et puis même pour les gens qui sont dans la région, qui écoutent et qui sont soit en région bordelaise, soit peut-être qui viennent des fois pour les vacances ou qui sont de passage, on vous conseille vraiment de venir voir Aurélien au Château Labrie. Déjà parce que moi, je trouve que c'est quand même vachement bien de pouvoir déguster du vin dans un cadre normal, j'ai envie de dire. Ton chai, il est super joli et tout, mais tu te sens pas dans un truc de bourgeois où tu sens qu'il va falloir parler un peu comme ça, et qu'il va falloir justement sortir des grandes phrases. Toi, tu mets à l'aise, c'est cool, tu fais une petite visite où t'expliques comment tout fonctionne, c'est hyper agréable. Et du coup, quand on boit ton vin, on se sent bien. En plus de boire un très bon vin, on le boit dans des super conditions. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Le Château Labrie, Labrie. Si vous êtes dans le coin, passez faire un coucou, quoi.
Et du coup, tu commercialises, on peut te trouver partout? Est-ce que tu fais de la vente en ligne?
Du tout. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je développe.
D'accord.
Il y a quelqu'un qui s'occupe de la commercialisation sur la Normandie et sur le Nord. J'essaye de développer un petit peu dans le secteur bordelais, mais je commence tout juste.
Ouais.
Mais c'est absolument pas mon métier, donc j'apprends. Moi, je fais du vin depuis un petit moment, mais la vente et la communication, je suis nul. J'apprends, en fait. Donc, je débute tout juste.
Ok.
Donc ça, c'est quelque chose, c'est une des choses à développer. Pas encore de site internet.
Ouais, donc aujourd'hui, si on veut goûter ton vin, il faut qu'on vienne te voir.
Oui.
Et qu'est-ce qui fait que le vin, toi, ça te passionne? Est-ce que c'est un truc que tu peux pas expliquer, qui est là depuis toujours, ou
non,
tu ressens vraiment des émotions particulières?
Assez drôle, c'est assez drôle parce que j'étais absolument pas la propriété dans la famille depuis des lustres, mais j'avais vraiment pas envie de travailler dans le vin. J'ai toujours été un peu... je m'ennuyais à l'école. Donc en troisième, j'ai voulu arrêter le côté un petit peu général. Et ma mère me dit, je voulais être cavalier en fait, voilà. Ma passion, c'était de monter à cheval et je voulais être cavalier. Et ma mère me dit très bien, mais n'oublie pas, t'as la propriété. Si t'arrive quoi que ce soit sur les chevaux, tu pourras toujours récupérer l'abri. Donc ça serait bien que tu fasses une formation. Je n'étais pas hyper convaincu, mais je lui dis pourquoi pas.
Ouais.
Donc j'ai fait un BEP en viticulture et œnologie. C'était sympa, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai fait des stages sympas. Mais c'était pas non plus la grosse révélation. Et puis est arrivé le bac, donc je suis allé visiter des écoles dans les chevaux. Et bon, là, rien ne m'a plu. Et je me suis dit, je vais rester dans le vin et puis on verra bien. Et je suis tombé sur une personne, un stage, qui m'a transmis sa passion. Et je crois que depuis ce jour-là, je me suis dit, bon ben voilà, je crois que j'ai trouvé.
D'accord. Donc tu es tombé sur une personne qui savait parler.
C'est souvent comme ça.
Oui, c'est vrai, quand tu as quelqu'un qui t'inspire, qui véhicule des bonnes valeurs, qui est pédagogue, qui te transmet le goût du truc, c'est vrai que c'est comme ça que ça peut arriver. Et cette personne, c'est une personne que tu vois encore aujourd'hui?
Oui, complètement. On s'appelle très régulièrement, voire toutes les semaines. C'est une personne que je vois beaucoup, on goûte beaucoup, on échange beaucoup, donne toujours des petits trucs, ouais, c'est quelque chose que...
Et toi, justement, vu que tu as été formé au métier du vin, est-ce que tu es capable de...
Former d'autres personnes ?
Pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux gens dont je parlais tout à l'heure, qui sont très... les gens un peu élitistes dont je parlais, est-ce que toi, tu peux te mêler à ces gens-là ? Est-ce que tu es capable d'analyser un vin sous toutes ses coutures ?
Même si, dire, oh, bah, il a une belle robe.
Même si je suppose que dans... Enfin, c'est comme si je demandais à un mec qui fait du judo, est-ce que tu es capable... Enfin, il y a des ceintures noires, il y a des ceintures marron. Toi, est-ce que tu es plus ceinture noire ou ceinture jaune ?
Ouais, ça, c'est difficile de dire.
C'est difficile.
C'est difficile de dire.
Fais un combat avec Hamso de dégustation. Et je saurais.
Après, la dégustation, c'est hyper subjectif. Ouais. Donc, forcément, ça m'est arrivé, hein, notamment pour les dégustations primeurs, d'être avec toutes ces belles propriétés. Mais c'est hyper subjectif. Enfin, je peux trouver quelque chose que l'autre personne d'un côté va trouver complètement différente. Le vin, c'est assez particulier parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est t'aimes ou t'aimes pas et tu vas trouver différentes choses et... Après, forcément, il y a des bases que tu vas retrouver, notamment les tanins, la couleur.
C'est quoi les tanins ? J'ose pas te demander depuis tout à l'heure.
C'est pas le truc. Attends, tu vas me dire si je me trompe, et probablement que je vais me tromper. Mais moi, j'adore le vin tannique, par exemple, parce que c'est le vin qui tresse, qui râpe. Ouais, qui est c'est bien ça, fort, ouais. Quoi. Le Cahors. T'as jamais goûté un vin de Cahors ?
Si,
bien sûr. Bah, c'est un vin bien tannique.
Je crois qu'elle a bien résumé.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Tiens, mais en fait, je suis vigneronne.
Pas mal. Mais moi, j'aime bien les vins qui ont du caractère. Je dis ça souvent. Et c'est un rapport ou pas ?
Oui, c'est un rapport, oui. Oui, complètement. Un vin tannique qui a forcément du caractère, oui.
Ouais. Donc ça se trouve, c'est juste que...
T'aimes les vins égoïstes.
Exactement.
Pour le coup, on est complètement à l'opposé de ce que j'ai fait et de ce qu'on a goûté tout à l'heure.
Oui, mais parce que justement, c'est ce qu'on disait. Ça dépend du contexte. Et moi, je trouve que... C'est difficile de boire du vin rouge. Enfin, en tout cas, à Bordeaux, je trouve qu'il n'est pas bien mis en avant, ce vin-là. Un vin qui va être, par exemple, pour l'apéro, un truc un peu fruité, un peu sympa.
Parce que Bordeaux, c'est des vins de garde. Donc, qui dit vin de garde, dit des vins un peu plus concentrés, justement tanniques. Et c'est des vins qu'il va falloir attendre 5-10 ans avant de pouvoir les apprécier. Et c'est pour ça que tu fais cette réflexion-là. Moi, j'avais à cœur de faire des vins presque buvables tout de suite.
Ouais.
C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Hein. C'est que j'avais envie que les vins soient prêts et qu'on puisse se faire plaisir maintenant. Aujourd'hui, quand les gens vont acheter une bouteille chez un caviste, ils vont pas l'acheter pour aller la boire dans 3 ou 4 ans. C'est pour la boire tout de suite.
Ouais.
Et c'était un peu l'idée. Même pour moi, j'avais envie de me faire plaisir en fait, tout de suite, sans me dire, celui-là, il va falloir que je l'attende 5 ou 6 ans pour qu'il soit prêt à boire.
Et puis, on a le droit d'avoir un palais hyper ouvert. Moi, j'adore le vin tannique, mais j'aime aussi le vin gras de Bourgogne. J'aime le vin que tu nous as fait déguster tout à l'heure, qui est hyper frais pour l'apéro. Enfin, c'est comme dans les films. J'adore les comédies romantiques et j'aime un bon gros Larme fatale. Et pourtant, on n'est pas obligé de me cataloguer dans un truc.
Tu regardes des films récents, toi, Larme fatale.
Est-ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps.
Est-ce que tu as vu Les Dents de la Mer ?
Mais c'est parce que je suis toujours nulle en comparaison. Mais
non,
tu vois,
mais c'est bien.
Ce que je veux dire. Ouais. On n'est pas obligé.
On peut aimer tout. Et moi, en vrai, quand je dis que j'aime les vins avec du caractère, en réalité, ça fait très longtemps que j'en bois plus parce que c'est aussi à une époque où je mangeais beaucoup de viande. Je sais que quand je mangeais de la viande rouge, j'aimais bien ce genre de vin-là. Ça se mariait bien avec. Mmh. Mais depuis que j'ai arrêté la viande, en vrai, ça aussi...
Pourtant, avec un bon fromage. Hein.
Avec du fromage, ça passe. J'aime bien boire du vin rouge, évidemment. Mais sinon, ça a quand même changé mon type de consommation de vin rouge. Je bois beaucoup moins de vin, justement, avec ce caractère-là.
D'ailleurs, je pensais à quelque chose. Tu sais qu'il existe les box, la box du fromager, tu vois ce que c'est ?
Oui, je vois, oui.
Tu devrais t'associer avec eux. Enfin, j'y pense à ça parce que c'est...
Ça existe aussi, les box de vin.
Oui, mais là, par exemple, tu as une box fromagère où ils te font goûter différents fromages. C'est des vrais bons morceaux de fromage. Et ils associent ça avec une bouteille de vin.
Ah.
Et je suis sûre que ton vin irait bien avec du fromage.
Ah
voilà.
Oui. T'es en train de lui demander d'aller chercher du fromage ?
Et du vin.
T'as faim ?
Du vin, ça, c'est bon, je peux le faire.
Et moi, je voulais te demander un truc par rapport au bio. Je m'y perds un peu, justement. Aujourd'hui, on essaie de consommer mieux un peu tout, la nourriture, ce qu'on porte sur nous, et même le vin. C'est pour ça qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui font du bio. Et je me perds un peu parce qu'on entend parler de bio, on entend parler de biodynamie. Ça se trouve, c'est du bio. Tu vas me dire si c'est la même chose. On entend parler aussi de vin nature ou naturel.
Souvent, les gens disent nature. Hein.
Nature.
Ouais, souvent.
Ouais.
Est-ce que tout ça, c'est la même chose ou faut faire des différences ?
Non, je pense qu'il y a quelques différences. Après, je suis pas un grand spécialiste de la biodynamie et du vin nature. Je m'y intéresse de plus en plus, mais je suis pas un grand spécialiste. Et je trouve qu'il y a plein de définitions Le vin bio, ça va être un vin, déjà une viticulteur qui va être bien plus respectueuse qu'une viticulture conventionnelle. On utilise quand même des produits de traitement, hein, comme le cuivre et le soufre. Hein, parce que...
Ah d'accord, y a pas, c'est pas du zéro produit.
Non, non, non. Ça, on... Alors, est-ce que je peux le dire ou pas, parce que je suis pas un grand spécialiste, mais ça va plus être le côté vin nature, je pense. Laisser faire un petit peu les choses,
okay.
Si je me trompe pas. Mmh. Non, sur le vin bio, on a quand même des interventions, parce que on le voit très bien sur le millésime 2023, ça a été un millésime assez compliqué, point de vue météo, hyper humide, et là pour le coup, on a eu de grosses attaques de mildiou. Si on n'avait rien fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas vin mangé du tout.
D'accord.
Donc ça, c'est le côté bio. Le côté biodynamie, on a les tisanes dont je parlais tout à l'heure, puis il y a aussi... côté astre aussi, les traitements en fonction des lunes, les travaux de sol en fonction des lunes, ça c'est la biodynamie. Et après on a le vin nature, où là pour le coup, je pense que le vin nature, c'est essayer d'être avoir le moins d'intervention sur la vigne ou sur le vin.
Ouais, on est d'accord que ça c'est un vin quand même super différent, même en goût, c'est...
Plein de dépôts souvent, non ?
Bah, c'est des vins qui sont non filtrés, presque pas préparés, avec très peu de soufre. Pour le coup, le soufre c'est quelque chose qui... Bon, on essaye de diminuer de plus en plus les doses, c'est quelque chose qui me tient à cœur ici, mais sur le vin nature, je crois qu'il y en a très très peu, voire zéro, et là pour le coup, il y a un risque.
Oui, oui, c'est qu'après, moi je sais que c'est ce qui m'est arrivé dans un resto à Bordeaux justement, où ils faisaient beaucoup de vin nature. On avait pris une bouteille, ils nous avaient dit, faites attention, on a des problèmes sur cette bouteille, parce que genre une sur deux qu'ils ouvraient, en fait, ça avait tourné, quoi, le vin n'était pas buvable. Mmh. Et vu que nous, de toute façon, on n'y connaissait rien, on n'a pas trouvé le goût ouf, mais on s'est dit, bon, non, ça va. Et on n'a pas été malade, je crois.
J'étais avec toi ?
Non, non, t'étais pas.
Ah oui.
Est-ce que tu peux nous dire ce que ce serait pour toi, ton métier comment t'aimerais le pratiquer de manière idéale si t'avais vraiment le budget illimité ? T'as plus de contraintes. Imagine demain, tu peux faire tout ce que tu veux. Comment est-ce que tu aimerais gérer ton exploitation ? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, peut-être que tu ne fais pas aujourd'hui ? Imagine, là, tu as vraiment toutes les cartes en main, tu as gagné à l'euro million. Et...
Ouais, je crois que déjà, ça serait arrêter ou limiter les interventions mécanisées sur le vignoble, donc tout ce qui est tracteur, pour éviter de le tassement des sols.
Mais comment on remplace un tracteur ?
Il y a pas mal de choses qui se font à la main. Bon, déjà, on parlait tout à l'heure du labour. Bah, ça, le labour, on le fait complètement. On travaille le rang entièrement, ça c'est possible. Et puis après, tout se fait à la main. L'essimage, ce qui consiste à tailler les vignes un peu au carré, bah, ça peut se faire à la main. Mmh. Les vendanges se font manuellement. Et puis les traitements, ça c'est un peu plus compliqué. Se faire peut-être avec un quad pour que ça soit plus...
Et ouais, ça reste quand même, on reste dépendant de...
Il y en aura toujours un petit peu.
Ouais.
On aura toujours un petit peu.
Ok. Il y a d'autres trucs que tu aimerais changer, même dans ton chai, ou est-ce que tu en profiterais pour expérimenter des nouveaux trucs? Ouais,
j'aimerais aussi augmenter un peu le parc entre guillemets, parce que la production n'est pas limitée, mais d'amphores, en avoir une ou deux de plus.
Amphores, ça c'est ce que je disais, qui ressemble
à une
jarre.
C'est un très bel objet, c'est en plus, c'est trop chouette.
Ouais, ça ressemble à une jarre en terre cuite.
Enfin, grosse jarre.
C'est en terre cuite, oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à
d'accord.
Fait.
Et qu'est-ce qui te plaît dans ça, dans l'amphore?
J'aime ce côté un peu... ça a presque le même effet qu'une barrique, sauf qu'on n'a pas de port de bois.
Ouais.
J'aime ce côté fruit, en fait, qui ressort, et le tanin qui est un petit peu patiné par l'oxygène.
D'accord. Mmh. Ouais, tu vois, là, tu m'as un peu perdu.
Pardon.
Le tanin patiné.
En fait, on sent que les tanins sont un peu onguleux, un peu rugueux. Ça accroche un peu, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais.
En fait, tu vas le passer en amphore, tu vas garder le fruit, mais ça, l'air, en fait, va venir lisser, enfin, tout ça.
D'accord.
Mais c'est pour ça, en fait, j'ai du mal à comprendre... Pourquoi c'est un milieu dans lequel on emploie des mots vraiment très compliqués que personne ne peut comprendre? Alors qu'en fait, tu vois, quand on dit bah, ça accroche, tu vois, tout le monde
oui,
comprend.
Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends. En fait,
c'est qu'il y a comme un côté, genre, comme si. Non, mais vous êtes le grand public.
Non,
et nous,
pas du tout. Mais pour moi, ça fait un vin qui accroche. Je l'ai tellement entendu que par des gens qui ne font pas forcément du métier, mais je l'ai. Enfin, c'est pas le cas et c'est peut-être nul, mais je le prends presque.
C'est péjoratif.
Pour moi, c'est. Ouais, voilà.
Alors que pas du tout. Moi, je voulais pas te blesser, Aurélien.
Non, non, ça m'a pas blessé du tout. Mais j'aime bien, ouais.
En réalité, on dit ça, mais le vocabulaire, il est super important. On peut pas s'en passer. C'est juste qu'effectivement, il manque un pont entre nous, les gens lambda et les gens du métier pour que ce soit plus accessible.
Mais après, la personne, le consommateur qui va boire à la bouteille finale, hein, parce qu'on l'a fait pour lui, c'est j'aime ou j'aime pas, quoi.
Ouais. Bien sûr.
On ne demande pas non plus d'aller faire un beau discours, un beau résumé du vin, c'est pas le but. C'est non. Le but, si je peux me permettre, c'est que la bouteille à la fin soit vide.
Oui, bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que là, par exemple, avec Anso, quand pour son anniversaire, on s'était fait un resto un peu.
Bah, il y avait une étoile quand même.
Il y avait une petite étoile hein, quand même. Donc, j'avais cassé la tirelire pour elle. On m'a jamais dit merci. Et... non, mais par exemple, le mec, à un moment, il est arrivé, il a dit voilà, est-ce que vous voulez du vin ? Oui, un verre de vin. Qu'est-ce que vous recherchez comme vin ? Mais c'est vrai que quand t'as pas le vocabulaire. Heureusement, Anso, elle avait deux, trois mots qu'elle a sortis de je ne sais où. Mais sinon, bah, moi, je saurais pas quoi dire. J'aurais dit un vin rouge qui, vous voyez, qui est un peu, pas le, oh, mais le, oh, oh, tu vois, tu peux pas faire des trucs comme ça. Vous avez pas un vin qui fait ding ding? Bah, non, parce que ça veut rien dire, monsieur.
Parce que ça existe pas.
Et
c'est vrai que c'est compliqué.
Et c'est en ça que c'est important. Et donc, forcément, on ne dénigre pas non plus tout ce langage-là qui est important quand t'es, je sais pas, pilote de fusée, quand t'es astronaute. Bah, tu vas pas dire, dans la fusée. Bon, j'appuie sur lequel ? Le bouton qui est bleu qui fait clac-clac ou la manette qui ressemble à une éolienne ? Tu vois, j'en sais rien.
Ouais.
T'es obligé de connaître les noms. Donc, heureusement que vous avez ça. Maintenant, le principal, t'as raison, il est là. Il est de se dire, j'ai pas besoin d'être un grand connaisseur. Soit le vin, je l'ai aimé et c'est super. Soit je l'ai pas aimé. Mais ce que je trouve super intéressant dans le fait qu'on soit venu te voir aujourd'hui, c'est que je t'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai jamais osé, bien que je sois de la région, d'aller visiter des caves, etc., parce que je trouvais ça trop élitiste, trop prout-prout, etc., et que j'avais peur de me faire chier ou d'être pris de haut. Et je trouve que quand tu fais cet effort-là et que tu tombes face à des gens qui sont passionnés, qui te transmettent ce qu'ils font, et en plus qui sont dans une démarche respectueuse de l'environnement, comme tu peux l'être, ça donne tout son sens. C'est comme quand tu vas acheter tes légumes au maraîcher.
Ben oui.
Et que tu vois où ça pousse, enfin, ça donne envie de consommer le produit en prenant plus soin, et ça donne aussi, enfin, et tu sais où tu mets ton argent.
Faut bouger, faut prendre sa voiture et aller voir. Il y a plein de viticulteurs comme ça en fait.
Toi, on peut venir te voir quand on veut, par exemple.
Complètement,
ou...
oui. Ouais. Il faut juste m'appeler un petit peu avant.
Ouais, c'est ça.
Parce que je m'organise un petit peu, mais oui, bien sûr, et avec grand plaisir même.
Bah, on va vous mettre de toute façon tous les liens partout.
En tout cas, merci beaucoup Aurélien de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Franchement, c'était. C'était un plaisir et j'invite une fois de plus tout le monde à venir te voir. On va mettre le lien sur le compte Instagram pour découvrir ce vin bio qui est tout neuf.
Mais moi, je me dis,
tout récent et hyper bon.
Je me dis qu'en plus même, on commence à avoir une communauté de gens qui se posent les mêmes questions que nous. Enfin, tu vois, qui essayent aussi de devenir des meilleurs êtres humains. Et moi, je me dis, pour l'année prochaine, ce serait pas trop cool qu'avec tous les gens qui nous écoutent et qui ont envie, on fasse des vendanges ensemble chez Aurélien, tu vois.
Bah, il nous
ça,
paye.
C'est une grande idée, ça.
Attends, j'adore, ça il
génial.
Nous paye.
Bah, je te rappelle qu'on est en galère d'argent, tu vas pas proposer du bénévolat tout de suite, là.
Mais si, parce que du coup, c'est du partage, c'est de la connexion entre êtres humains et ça peut être vraiment un moment trop sympa.
C'est vrai. Et puis, toi, c'est vrai qu'Aurélien, ça peut t'arranger.
Bah oui,
cette connexion entre êtres humains.
Ça peut être vachement sympa.
Ça puis, peut être super cool, quoi.
Un gros barbecue.
En réalité, en plus, moi, je me suis dit, parce que j'ai l'impression, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver de la main-d'œuvre pour faire les vendanges, par exemple. Alors que moi, quand je la faisais, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je sais qu'on était plein de jeunes à l'été à bosser dans les vignes.
Ouais, malheureusement, on le voit plus. Hein.
Et à la rentrée, parce que t'es étudiant et que ta rentrée, elle est un peu plus tard que les autres quand t'es après le bac. Et ouais, il y en a de moins en moins.
Il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, les trois quarts des vendangeurs qu'on peut croiser dans le secteur pendant cette période, c'est des entreprises.
Ouais.
Ça évite d'avoir une surcharge administrative et de trouver du monde.
Ouais, parce que c'est difficile de trouver du monde et en plus, c'est du boulot pour ceux qui embauchent. Ouais. Mais
ça peut être une idée.
Mais
moi,
pourtant,
je
l'expérience
ça...
est super. Et je me disais... limite, dans le Saint-Émilionnais, tu pourrais faire payer des gens pour faire tes vendanges.
Mais
quand
bien
tu vois,
sûr
quand tu vois tous
oui.
les touristes qui viennent à Saint-Émilion pour découvrir et tout, il y a un côté vrai. Oh, je fais les vendanges, c'est rigolo. Ouais, ben vas-y, tu payes 2000 balles et puis tu fais deux jours. Oh, c'est pas cher, tu vois.
Ouais.
Et puis en fait, tu dis, bon, ils ont rien compris, c'est pareil.
T'as perdu d'accent sur le pas cher.
Bon, ça va.
C'est un américain patois, quoi.
Ah, oh, ça va. C'est un américain qui a bien un coup. Non, mais en tout cas, sans penser tout en termes de profit et tout, l'expérience, elle est belle.
Ouais.
C'est sympa, ça permet de comprendre comment ça
c'est
se
sympa.
Passe.
Et puis après, voir un petit peu ce qui se passe dans le chai, ça peut être bien aussi. Quoi.
Ouais, c'est ça, ça peut être aussi un espèce de circuit où tu vendanges, après tu vois où va ta grappe de raisin, tu vois comment ça se passe sur la table de tri, où ça part avec le tracteur, machin, ok, dans la cuve, etc. Bon, ça se voit que...
c'est le concept, quoi.
Oui, ça se voit qu'on avait compris depuis le début, que ma phrase aurait pu s'arrêter bien avant. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis,
merci
c'était super sympa. Et moi, ce que je propose, c'est peut-être parce qu'on est assez émotif, comme Jean. Donc si on pouvait se faire une petite dégustation d'adieu.
Bah ouais.
Les bouteilles sont ouvertes, on y retourne.
C'est juste histoire de couper comme ça la tristesse.
Il n'y a que le vin qui vit sur la tristesse, c'est bizarre.
Allons-y.
Bon, merci à tous de nous écouter. Et puis n'hésitez pas à nous donner encore votre avis sur ce podcast. Et puis nous donner des idées aussi de gens que vous avez envie qu'on interviewe du côté de chez vous. Là, on est dans une dynamique un peu de on bouge, on prend la voiture et tout. On est prêt à
parcourir le monde.
Ouais. Enfin, là, on était à Libourne encore ce matin. Et là, on est quand même à 10 km. Hein. Donc, bon, on n'ira pas plus loin de 10 km. Mais bon, si vous êtes un peu autour de Libourne, on est prêt à voyager. Allez, des gros bisous. Hein.
Allez, on vous embrasse.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et sachez que vous pouvez nous soutenir.
Ça se passe sur Tipeee. T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains.
Merci par avance.
Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci.
Et bien à vous.
À vous également.
Au revoir.
Cordialement.
Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.